offense créneau. Quatre murs, ma maison, c'est le grand vent et les lourdes pluies qui durent longtemps. Ma maison, c'est la gelure, ma maison, c'est le froid blanc, les frimas et les gerçures d'antan.
Sans y croire, tu ne m'aimes plus. C'est tant pis pour toi. Nos vieux airs de fête reviendront peut-être danser quelquefois tout autour de toi. Comme aux jours anciens, je n'en savais rien. Pourtant, je croyais que l'on s'aimerait longtemps sans nuage, mais rien ne surnage. Nous avons perdu. Je ne t'aime plus. Le vent qui se lève emporte mes rêves, larmes dans les yeux, un geste d'adieu. On ne s'aime plus, c'est peut-être mieux. Reste encore un peu, mon amour, mon amour, mon amour.
Témoignage de Nguyen Duc Thuan sur les cages à tigres, brevet français du bagne de Poulot Condor.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Praha, à Prague. Par exemple, radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma, puisque nous accueillons Marketa Odogushkova. Bonjour Marketa.
Bonjour Christophe.
C'est la troisième fois que tu viens nous parler du festival Check-In. Alors, c'est la troisième fois que tu viens, mais on va quand même rappeler qui tu es. Tu es la directrice du festival Check-In, mais encore, quel est ton rapport avec le cinéma ?
Alors, moi, je suis une professionnelle de cinéma. J'ai travaillé pendant très, très longues années avec les exploitants dans le réseau des salles Europa Cinéma et avec les cinémas ARC de Sikae. Et je suis une passionnée de cinéma. Je me suis rendu compte, quand j'ai déménagé en France, que le cinéma d'Europe centrale est quasiment inexistant sur les écrans en France. Et comme à Prague, j'ai travaillé sur le festival de cinéma français à Prague.
Oui.
J'ai tenté l'expérience de faire dans le sens envers et de faire le cinéma, de présenter le cinéma tchèque à Paris. Et donc, depuis 2009, j'essaie de faire découvrir aux Parisiens la culture tchèque, de les embarquer avec Check-In pour un voyage au cœur de l'Europe, voilà, à travers les films.
Eh oui, alors tiens, c'est marrant. Est-ce que c'est plus difficile de faire découvrir le cinéma tchèque aux Français ou le cinéma français aux Tchèques ?
Quelle question. Je pense que le cinéma français est bien mieux loti et a une tradition qui perdure depuis des dizaines et dizaines d'années avec des stars mondialement connues, avec tout un système aussi de financement qui n'existait pas en Tchécoslovaquie,
oui.
Ou bien on peut dire plutôt qu'il s'est complètement écroulé après la nouvelle vague tchécoslovaque. Il n'y avait plus vraiment de liberté d'expression,
oui.
Il n'y avait pas la liberté de créer des films. Et après la révolution de velours en 89, il n'y avait pas de CNC tchèque, pas de Centre national de cinéma. Toutes les structures ont dû recréer plus tard parce que, bon, après la révolution, c'était le système un peu, je dirais, du marché libre.
Ouais.
Et on ne voyait pas de raison pour financer la culture. Donc il fallait travailler avec les nouveaux hommes politiques pour les convaincre que la culture ne se crée pas toute seule et qu'elle ne peut pas être rentable commercialement et qu'il faut la sponsoriser.
Ouais.
Donc, entre-temps, il n'y avait pas de structure de promotion. Donc, on ne pouvait pas s'appuyer sur quelque chose comme vous avez en France, Unifrance, pour exporter des films.
Ah oui, par exemple. Oui.
Donc, mais c'est encore aujourd'hui, c'est encore un problème parce que on voit qu'il n'y a pas des budgets suffisants pour promouvoir même des films qui circulent, comme Il Bohemo.
Ouais.
Bon, c'est des films qui ne sont pas subventionnés pour leur sortie à l'international de la République tchèque. Hein.
Mais au niveau de la production, vous n'avez pas de CNC comme nous avons ?
Si. Il y avait un fonds auprès du ministère de la Culture qui s'est transformé il y a 13 ans en Fonds national de cinéma tchèque, qui fait un peu l'office aussi de CNC, mais qui est vraiment minuscule en comparaison et son budget n'est pas suffisant non plus.
Et est-ce que la télévision tchèque participe au financement des films ?
Oui, la télévision tchèque fait partie de plus grands coproducteurs des films de qualité tchèques. Voilà. Mais après, elle a aussi les droits, évidemment.
Ouais.
Donc elle récupère la possibilité de les montrer sur l'antenne.
Approche un peu ton micro. Et alors, ce que je vais te demander également, c'est du coup, est-ce que les cinématographies tchèques et slovaques, donc c'est effectivement pas comparable aux cinématographies françaises, mais est-ce qu'elles sont pour autant dynamiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui sortent?
Oui, je pense que de plus en plus, c'est donné aussi au fait qu'il y a une nouvelle génération des étudiants de la FAMU qui sort. Et donc, oui, c'est des cinématographies qui ont plusieurs dizaines de films, de longs métrages chaque année, aussi beaucoup de documentaires. Elle est tchèque, elle est slovaque. Et qui sont pas mal sélectionnés aussi dans les festivals internationaux, peut-être pas à Cannes, mais il y a tous les ans des films slovaques qui sont à Venise, il y a des films tchèques et slovaques aussi à la Berlinale, ouais. Et il y a des films aussi à Locarno.
Eh ben, on va en parler, oui.
Locarno, qui est le plus grand festival, à mon sens, du cinéma à RSC dans le monde.
Oui, oui. On va en reparler, bien sûr. Je voulais savoir, tu viens de parler de la FAMU, et peut-être il faudrait en dire un mot, parce que sur le site de Check-In, de votre festival, je suis allé voir les portraits des 7 réalisateurs et réalisatrices, et ils sont pratiquement tous sortis de la FAMU. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette école?
Alors, c'est une école de cinéma basée à Prague, qui fait partie dans les classements des meilleures écoles du monde. Oui. C'est une école qui a été créée après la guerre. Et ce qui est peut-être intéressant à soulever aujourd'hui, c'est que c'est là où se sont formés les plus grands cinéastes, pas seulement tchèques, hein, oui. Par exemple la nouvelle vague tchécoslovaque a été formée de manière assez systématique à la FAMU, aussi avec la contribution de Milan Kundera, qui lui-même aussi a étudié le cinéma. Il est resté à l'école pour enseigner ensuite la littérature mondiale. Et donc, par exemple, Forman ou Menzel ou Hitilova, c'était des réalisateurs qui prenaient des cours de littérature auprès de Milan Kundera.
D'accord.
Mais dans l'école de FAMU, on peut voir aussi d'autres branches des réalisateurs étrangers qui sont venus étudier à Prague. Et il y avait notamment toute une école yougoslave, de l'ancienne Yougoslavie. Donc, par exemple, Kusturica, il a étudié à la FAMU. Et c'est une tradition qui continue, qui perdure. Et nous avons eu, il y a quelques années, le réalisateur slovène Olmo Omerzu, qui est déjà un grand nom dans le cinéma international, qui vient de Ljubljana, Slovénie, oui. Qui a étudié là. Et cette année, je montre aussi 2 films de 2 réalisateurs, un polonais, Tomasz Winski et Fiona Ziegler. Tomasz est polonais et Fiona suisse. Donc, c'est une plateforme pour l'Europe centrale ou même pour d'autres régions, parce qu'il y a aussi une section internationale où se forment des réalisateurs qui ensuite peuvent aussi donner un aspect international au cinéma tchèque. Oui. Et c'était un des axes que je suis aussi dans la programmation cette année.
Ah ben voilà, on va y revenir. Oui, effectivement, j'avais lu cette histoire que la FAMU était une des meilleures écoles au monde, carrément.
Hein, dans les 10 premières, oui.
Ah, ouais, ouais. Et alors, peut-être un des buts de votre festival, de Check-In, c'est de promouvoir les cinémas tchèques, slovaques et d'Europe centrale auprès du public français. Mais moi, je vois bien, je travaille dans le cinéma, donc je vois bien qu'il y a, je dirais pas un manque d'intérêt, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas par rapport aux cultures de l'Europe centrale et de l'Est, une frilosité des spectateurs, mais aussi des distributeurs, qui peut-être explique le festival Check-In. Mais comment tu analyses ça? Comment tu expliques le fait que, bon, bah voilà, on va aller voir des films américains les yeux fermés, alors que c'est pas forcément de la super qualité. Et dès que ça vient de l'Est, bon, bah, on se précipite pas. Et même au niveau des distributeurs, on pourra en reparler, mais moi, il y a des super films que j'ai vus sur de la VOD, par exemple, sur des plateformes qui sont pas sorties en salle. C'est incroyable.
Tu parles peut-être de la plateforme Universciné? Je contribue avec un corner qui s'appelle Kino Visegrad, oui. Dans lequel j'essaie de mettre des films pour lesquels on a des droits, des films en provenance d'Europe centrale, Europe de l'Est. Alors, je pense, en quelque sorte, je me l'explique aussi par cette raison pécuniaire, financière, parce que sortir un film, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, c'est pas rien. Il faut promouvoir le film parce que t'imagines, tu as deux films de même qualité. Celui qui a un grand budget pour la promotion, il va être bien plus vu, bien plus exposé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est indéniable. Il n'est pas du tout vrai qu'un bon film trouvera son public. Ce n'est plus vrai parce que l'offre est tellement riche, tellement, il y a tellement de films que si tu ne peux pas investir du temps et de l'argent, tu n'arrives pas à percer avec ton film. Il y a par exemple Il Bohemo qui a été nominé pour les Oscars pour la République tchèque l'année dernière, et son producteur Jan Mazzola, qui accompagne Petr Václav depuis des années, qui accompagne beaucoup de films prestigieux, il a expliqué dans une interview que pour promouvoir le film auprès des membres de l'Académie de films aux États-Unis, ben, il faut faire des voyages, il faut programmer des films dans les cinémas, faire des projections privées, invitées, et tout ça. Bon, pour un petit producteur d'un petit pays, enfin, je veux dire, c'est pas si petit que ça, mais ça fait partie des pays à production audiovisuelle limitée, disons. Donc, il faut vraiment un réseau, et ça coûte de l'argent, les voyages, la promotion, participer à des festivités, participer à des soirées, voilà. Ouais. Donc souvent les films ne sont pas élus parce qu'ils n'ont pas été vus. Et pourquoi ils n'ont pas été vus? Parce qu'ils n'étaient pas assez présents sur les écrans des présentations à cette occasion. Donc c'est une des raisons, parce que franchement, je pense que quand on regarde la production slovaque et la production tchèque, moi je trouve qu'il y a des titres de qualité. C'est des films qui sont au niveau professionnel, technique, bien fait, et ils ont aussi des choses à dire, sont bien interprétés, bien écrits. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils ne sont pas vus. C'est parce qu'il y a une percée sur le marché qui n'est pas opérée faute de financement.
Alors moi, je peux te dire, pour travailler dans le cinéma, je peux te dire qu'il y a des très très mauvais films qui ont une couverture médiatique incroyable.
Voilà, hein. Bah, tu vois, ces films n'ont pas de couverture médiatique, comme je te dis, exactement.
On va y revenir. Alors, mais par contre, j'aimerais bien savoir comment tu procèdes. Puisque tu es la directrice et la programmatrice du festival, comment tu procèdes pour sélectionner les films, et aussi est-ce que tu as eu des choix à faire, des choix difficiles à faire? Comment tu choisis le nombre de films déjà?
Nombre de films, franchement, je le choisis en fonction des subventions qui nous sont attribuées. Où je peux voir combien de films on peut se permettre d'inviter, de sous-titrer. Et comment je procède? En fait, je travaille aussi comme experte pour plusieurs fonds de cinéma. Ouais. Donc, je me tiens au courant. J'ai une veille professionnelle. Je suis ce qui se passe. J'essaie de sélectionner des films. Enfin, je sélectionne des films qui apparaissent beaucoup dans des palmarès. J'essaie de prendre des films qui ont eu des sélections, bien qui étaient primés dans des festivals prestigieux à l'international. Ou aussi qui ont eu des prix nationaux, le Lion tchèque, en l'occurrence pour les Tchèques, et le Soleil dans le filet en Slovaquie. Et aussi, en fait, il y a certains réalisateurs que j'ai détecté parce que ça fait 15 ans que le festival existe, même s'il est maintenant à sa 9e édition. Mais je suis des réalisateurs et quand je repère quelqu'un qui a un potentiel de franchir avec son talent les limites du pays, et il peut s'inscrire dans la cinématographie internationale. Quand je le repère avec son premier film, deuxième film, je vois qu'il continue à faire des choses intéressantes. Ça m'intéresse également de renviter avec, avec les films, avec les nouveaux films. Donc il y a comme ça des personnalités qu'on suit.
D'accord. Bon, on va revenir sur les réalisateurs. Mais il me semble avoir lu dans le texte de présentation du festival sur votre site, que les femmes étaient à l'honneur cette année. Alors, était-ce une volonté délibérée de ta part? Et pour quelle raison?
Alors, ce n'est pas la première fois que les femmes sont mises à l'honneur, mais je voulais aussi utiliser cette information dans la communication pour la souligner, parce que tout d'abord... c'est une tendance dans le monde et on s'inscrit évidemment aussi dans cette tendance qu'on trouve positive parce que nous trouvons qu'il faut donner l'espace aux femmes cinéastes créatives d'un côté. De l'autre côté, il est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans cette voie. Et puis aussi dans le festival, nous sommes de nombreuses femmes et c'est connu que dans les métiers de soft power, de culture, de société, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la sensibilité de bien développer le dialogue culturel. Je pense que les femmes ont talent pour ça et on s'inscrit dans cette voie et je pense que les films sont de qualité et que ça serait une erreur de ne programmer que des films des hommes, comme c'était souvent le cas dans beaucoup de festivals. Ça ne reflète pas la réalité du monde. Il y a des femmes aussi. Voilà.
Alors, Teresa Nvotova, on va en parler, mais à propos de son premier film de fiction, Spina, qui se traduit par « Sans jamais le dire », et que je vous recommande d'ailleurs, et qui parle de l'épineux, douloureux problème du viol, explique qu'il y a des pays où le mouvement MeToo n'a pas bien marché. Elle parle notamment de son pays, de la Slovaquie, et elle explique qu'une femme sur 10 en Slovaquie a subi le viol. Elle dit ça à propos de son film de Spina de 2018. Alors je voudrais savoir, qu'en est-il en République tchèque, en Slovaquie, du mouvement MeToo, et est-ce que les choses évoluent?
Ça fait quand même 22 ans que je suis déjà basée à Paris. Donc, j'essaie de suivre et j'ai des échos. Je vois bien que ce n'est pas...
Et tu vois, c'est étonnant ce qu'elle dit.
Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à aux États-Unis, les procès et tout ça. Je pense que ça reflète une différence culturelle. Ouais. On peut pas dire que ça n'existe pas. Après, je dirais que la société tchèque n'est pas pareille que la société française. C'est la même chose pour les Slovaques. Dans beaucoup de choses, je pense que les femmes ne subissent pas forcément les mêmes pressions que, par exemple, à Paris. Je pense que c'est aussi des questions d'éducation, de tradition. Alors, je ne veux pas du tout réduire cette question, mais je suis pas non plus très très bien placée pour pouvoir témoigner de la société de la société d'aujourd'hui là-bas. Hein. Mais c'est vrai que il y a des aspects sur lesquels ces sociétés sont aussi moins sensibles, tu vois. Donc c'est tout à fait possible que ce que Teresa Nvotová a dit, que c'est fondé.
Et du reste, son film traite aussi de ça. On va en reparler, mais on va écouter un peu de musique. Alors, en début d'émission, je ne l'ai pas annoncé, mais nous avions Jaromír Honzák, qui est le contrebassiste. Alors, j'ai choisi un morceau de contrebasse, puisqu'on va parler d'un film autour de la contrebasse, mais je pense plutôt de la contrebasse classique. Et là, c'était un contrebassiste de jazz qui a accompagné Iva Bitova, notamment dans le groupe Chicory.
Iva Bitova qui joue dans le film de Teresa Nvotová.
Et ben, figure-toi, c'est pour ça que j'ai choisi un morceau de Iva Bitova qu'on va écouter maintenant, et qui s'appelle, j'ai choisi le morceau Ples Upiru, qui veut dire le bal des vampires, je crois, hein, c'est ça. Donc un morceau un peu de fantastique, d'horreur, puisque c'est le thème, un peu, je crois, le genre du film Svietonots, dont on va parler après. Iva Bitova, Ples Upiru.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et nous sommes aujourd'hui avec Marketa Odouchkova. Nous parlons du festival Check-in. Et on vient d'écouter Iva Bitova, Ples Upiru, le bal des vampires, extrait de son premier album solo de 1991. Alors Marketa, pourquoi, à ton avis, ou peut-être te l'a-t-elle dit, je ne sais pas, pourquoi Teresa Nvotova, la réalisatrice du film Night Sirène, en anglais, a-t-elle fait appel à Iva Bitova?
Alors ça, je peux seulement supposer, ouais. Mais en écoutant cette musique, je me dis que ça pourrait très bien être la motivation, parce que Iva Bitova dans le film incarne une personne mystérieuse qui pourrait très bien être prise pour une espèce de magicienne, de sorcière qui va cueillir des herbes médicinales à la lueur de la lune la nuit, ouais. et qui soigne une femme qu'on ne peut pas décerner, qui est mystérieuse, qui est libre, qui vit en accord avec la nature. Et je pense que ça se rejoint dans la musique que tu as sélectionnée. Ouais. Oui. Ouais.
Alors, du reste, ce n'est pas la première apparition de Iva Bitova au cinéma. Je me souviens, dans les années 90, moi, avoir diffusé un film de Dushan Hanak, Rêve en rose, qui date de 1977, hein, tout de même. Alors, elle était, je crois qu'elle avait, je ne sais pas, peut-être 16 ans, Iva Bitova, à l'époque. Et on l'avait passé dans le cadre du festival L'Œil Vert, dans le Val-de-Marne. Je me souviens, c'était un festival, cette année-là, il était consacré au cinéma Zigan, Gitan. Et donc, voilà. Et puis, je crois qu'Iva Bitova a fait plusieurs autres apparitions au cinéma depuis. Parlons un peu de cette réalisatrice Teresa Nvotova. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous la présenter?
Alors, c'est une jeune réalisatrice slovaque, très talentueuse, courageuse. Elle a étudié donc l'école de cinéma à Prague FAMU. Elle vient d'une famille des artistes. Sa mère, son père, sa sœur sont des acteurs de théâtre, réalisateurs, chanteurs. Et Teresa, elle a commencé à faire les films très jeune. Elle est aussi porte-parole de beaucoup de mouvements. Aussi, elle prend la parole pour défendre des femmes, leurs droits, etc. Et donc, c'est son troisième film qu'on projette cette année. On a déjà projeté le film dont tu as parlé, sans jamais le dire, sur le viol. Mais il y a quelques années... on a montré aussi son documentaire sur l'homme politique assez populiste hein, qui était premier ministre de la Slovaquie dans les années 90, oui. Mečiar,
oui.
Qui était avec... donc avec Václav Klaus, l'opérateur de la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie
oui.
en 93. Et je voudrais faire aussi une petite parenthèse oui. ici, que cela fait donc 30 ans que la Tchéquie, la République tchèque existe et la Slovaquie existe comme deux pays indépendants. Et donc, c'était aussi un des axes de festival
ah, oui,
qu'on voulait rappeler cette césure, ce divorce à l'amiable et aussi mettre accent sur le fait que la Tchécoslovaquie n'existe plus, malgré le fait qu'en France, on entend encore assez souvent. Donc, c'est encore un rappel aux spectateurs et au public que la Tchécoslovaquie n'existe plus depuis 30 ans.
Oui.
Donc maintenant, il faut dire Tchéquie, ou la République tchèque, et la Slovaquie. Voilà. Et donc, Teresa, c'est vraiment une femme très talentueuse. Et donc, on ne peut que se féliciter qu'elle continue à faire des films ou des documentaires,
oui, oui.
Qu'elle partage avec son public et qui sont de très grande qualité. Ce film-là, concrètement, il a eu beaucoup de prix, et notamment celui de Locarno, l'année dernière,
oui.
Au Festival de cinéma d'art artistique,
oui.
Qui s'appelle Léopard d'or.
Il a eu le Léopard d'or, catégorie cinéaste
voilà,
du
c'est
présent.
C'est vraiment... un très très haut classement et je voudrais juste rappeler que son producteur est tchèque et ce film a été aussi coproduit avec la France. Il y a aussi une partie de montage, de musique qui était faite à Paris. Oui.
Alors, mais peut-être il faut nous faire le résumé, le pitch, comme on dit dans les médias machin là. De quoi parle Svetlonoc? Alors, Svetlonoc, c'est la nuit, le monde de la nuit.
C'est un mot valise.
Ah oui, d'accord, Svetlonoc.
C'est très bien de le traduire sirène de nuit, mais ce n'est pas tout à fait
oui.
Traduction littéraire. Ben, en fait, c'est un très beau film. Je ne voudrais pas spoiler
oui.
ou raconter l'histoire, mais c'est un film qui est très beau visuellement.
Oui.
Magnifique, ça se déroule dans la Slovaquie rurale
oui.
avec un air de mysticisme et qui fait justement qui parle des mythes aussi, qui fait allusion à des mythes et des croyances dans cette Slovaquie reculée
oui.
par rapport aux sorcières et à la vie des femmes d'aujourd'hui, donc c'est une histoire de jeune femme qui revient dans son village natal après avoir été présumée morte depuis très longtemps et donc ça éveille des craintes sur l'arrivée sur le réveil de la sorcière qui hante un peu la région.
Alors, je sais qu'il y a une tradition de films, de contes, les pratki, mais alors c'est plutôt à la télévision, moi je crois que c'est pas forcément des grandes productions, c'est des téléfilms, mais des films fantastiques ou même d'horreur, comme vous l'indiquez sur le programme, c'est pas si fréquent, je trouve, dans la cinématographie tchèque et slovaque.
Les pratki, c'est très fréquent,
ouais,
les contes de fées...
Ouais.
Les Tchèques le suivent, même des adultes, pas mal, à la télé.
Ah bah, à l'équivalent de la FNAC, hein, le Bonton à Prague, là, il y a tout un... La première fois que j'y suis allé, j'étais étonné. Il y a tout un rayon de Pohatki.
Il y a des acteurs très sérieux qui s'y prêtent et qui jouent dans des rôles des rois, des princes et princesses.
Bon, après, pour en avoir vu, ce n'est pas des grandes productions, ce n'est pas des grands films.
Non, je ne le programme jamais. Ouais. Mais ce film-là, ce n'est pas un conte de fées. Ah bah non, ouais. Plus, il y a l'aspect mystique, l'aspect, comme tu as dit, un peu film d'horreur, drame.
Mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve, justement. Il n'y en a pas beaucoup.
Non, pas du tout. Il y en a très, très peu. Enfin, il y en a quelques-uns, mais très peu. Et je pense que c'est en même temps un film qui pose des questions sérieuses. Voilà. Mais qui n'est pas fantastique dans le sens où on utiliserait des énormes effets spéciaux. Ne vous attendez pas à ça. C'est quand même... très en lien avec la nature.
Voilà. Alors, tu l'as dit, le film a obtenu le Léopard d'Or, catégorie cinéaste du présent à Locarno. Penses-tu, du coup, qu'il sera distribué, qu'il aura une carrière en salle? Est-ce qu'on peut le savoir, ça?
Oui, on peut le savoir. Je pense que si le film sortait, s'il était déjà acheté, parce qu'il a été produit l'année dernière, ça se saurait déjà. Donc, à ma connaissance, il n'a pas été acheté en France. D'accord. Pourtant, il a un vendeur international en Italie, une grande société qui a un grand catalogue. Mais à ma connaissance, il n'a pas été acheté en France.
Donc, ce soir, ce sera l'occasion pour le public.
Ou jamais.
Ouais, c'est
l'occasion
ça.
Ou jamais.
Ah, tu crois, de le voir au cinéma, parce que c'est un film de cinéma. Hein. C'est à voir dans des salles, les films de cinéma. Je le rappelle. Alors, ce soir, justement, ce sera la soirée d'ouverture du festival, soirée peut-être de prestige. Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il faut...
Réserver. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller sur le site du cinéma Saint-André-des-Arts.
Ah oui.
Il y a la billetterie en ligne et on peut acheter des billets pour toutes les séances à venir.
Eh ben justement, je voulais te dire, on en a parlé en antenne, on ne va pas redire ce qu'on a dit en antenne sur le cinéma Saint-André-des-Arts, n'est-ce pas, dans lequel j'ai travaillé 2 mois. Qui m'ont bien suffi à l'époque. Et les années précédentes, il me semble que vous aviez plusieurs lieux de diffusion. Et là, vous venez uniquement dans ce festival. Comment ça, pourquoi ce festival? Pourquoi ce cinéma?
Pourquoi ce cinéma? Alors, le festival a été dans plusieurs lieux déjà. Là, c'était après une consultation avec les cinémas indépendants parisiens. C'était Saint-André-des-Arts qui nous a invités chez eux, qui nous a très gentiment ouvert les portes, et j'en suis vraiment très reconnaissante. J'ai découvert ensuite que le cinéma est aujourd'hui exploité par une société de distribution très connue, Shellac.
Ah, d'accord.
Shellac Film, est vraiment une société très prestigieuse, très pro. Et nous avons rencontré le personnel absolument adorable qui fait tout pour nous aider, pour nous accueillir. Il y a des choses pratiques aussi parce qu'il y a un foyer devant notre salle dans lequel on pourra servir les bières tchèques, qui est notre partenaire, qui est la meilleure ambassadeur de la République tchèque en termes de la bière, parce que c'est la spécialité tchèque.
Ah oui.
Tout comme nous sommes le meilleur ambassadeur en termes de cinématographie. Et en fouillant, en fait, j'ai découvert aussi grâce à notre ambassadeur de la République tchèque, Michael Fleischmann, qui est un grand connaisseur de cinéma aussi, j'ai découvert que dans ce cinéma, il y a eu la première de Vol au-dessous de Nid de coucou de Miloš Forman.
Ah oui.
Donc c'était là où toutes les festivités pour la sortie de ce film ont eu lieu, qui est aussi un peu considéré en quelque sorte comme un film tchèque, si on peut dire, parce que Forman, c'est notre réalisateur du cœur.
Ah, lui, il sort de la FAMU.
Hein. Il était dans la Nouvelle Vague tchécoslovaque.
Ah, bah oui,
et donc, ce programme, cette année, il est un peu plus restreint. Il n'y a pas énormément de films. Mais nous allons avoir d'autres projections qu'on fait d'habitude avec les départements des études slaves à la Sorbonne, dans le centre Malesherbes. Il y aura un programme de court-métrage très primé au mois de décembre, le 13 décembre, d'accord, il me semble. Et puis un autre film de Peter Václav, son premier film Marianne, qui va être projeté à l'INALCO en janvier. Et comme c'est des dates un peu éloignées, nous ne les avons pas encore mis dans le programme.
Ah oui, d'accord.
Mais ces lieux de projection restent maintenus.
Ah bah super. Alors j'ai vu, comme tous les films, je crois, du festival Check-In, on peut voir la bande-annonce sur votre site, mais elle est sous-titrée en anglais. Alors rassure-nous, le film sera bien sous-titré en français.
Oui, tous les films sont sous-titrés en français. Bon. C'est juste les bandes annonces sont faites pour des festivals internationaux, donc sont pas forcément sous-titrés français.
On va parler maintenant des courts-métrages polonais, mais on va écouter un peu de musique. Alors, en janvier 2010, j'avais fait une émission sur les musiques alternatives en Pologne, et eux avaient eu droit à un traitement de faveur. Ce groupe-là, j'aime beaucoup, c'est Baaba, B2ABA. En 2011, ils ont sorti avec la chanteuse Gabriela Kulka, sous le nom de Baaba Kulka, un album hommage au groupe de hard rock Iron Maiden. Alors, ils font des reprises. Je vous conseille d'aller voir ça sur Internet, c'est assez particulier. On écoute un extrait de l'album de 2006, Pop et Music. Et le morceau s'appelle Chepan, je pense. C'est S-Z-C-Z, Chepan. On écoute Baaba. Thank you.
Manzo.
Alors, on est sur Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres, et on parle du festival Check-in, consacré au cinéma tchèque-slovaque, mais Marketa également polonais, puisqu'il y a cette sélection de courts-métrages. Qu'est-ce qui a motivé cette programmation?
Alors, cette motivation, c'est un fruit de coopération avec une autre association dans laquelle je suis engagée qui s'appelle Kino Visegrad, mm-hmm. qui est donc ouverte sur les pays d'Europe centrale, où je travaille aussi avec Mathieu Léric, qui est professeur de l'université Paris 8, et qui est venu me parler de sa coopération avec le festival en Pologne, à Wrocław, qui s'appelle Nowe Horyzonty. Donc, on a réfléchi ensemble comment intégrer, comment on pourrait travailler avec le festival. Et puis, on s'était rendu compte que samedi, c'est les élections en Pologne.
Ah oui.
Moi, j'avais prévu de montrer un film tchèque qui est réalisé par un Polonais qui a fait l'école de la FAMU. Et donc, j'ai laissé à Mathieu le soin de sélectionner des courts-métrages avec le programmateur de Nowe Horyzonty, avec Piotr Cielkowski. Et donc, ensemble avec une autre association française des Polonais à Paris pour la défense de la démocratie en Pologne, on a monté ce programme pour dédier cet après-midi de samedi avant le film qui est réalisé par les Polonais, de faire un clin d'œil à la Pologne pour rappeler aussi que dans cette région, il est extrêmement important qu'on fasse des films ensemble. Ouais. Aussi pour cette raison financière, c'est nos partenaires. Pour pouvoir monter des grands films, des grands budgets, il faut une synergie. Et ces pays-là, ces cinéastes s'entendent, ils se comprennent, ils veulent travailler ensemble. Donc, c'est une région où il y a pas mal de coproductions avec la Pologne, avec la Tchéquie, avec la Slovaquie, avec l'Autriche. Donc, c'est une ancienne région de l'Empire austro-hongrois où nous avions vécu en proximité. Le communisme, le rideau de fer nous a aussi préparé une histoire commune pendant un demi-siècle. Et nous sommes rentrés tous ensemble dans l'Union européenne. Nous vivons ensemble et nous créons ensemble. Et donc, c'est un honneur de pouvoir aussi s'ouvrir sur les inspirations de nos voisins.
Tu nous as parlé de Kino Visegrad. Peut-être tu peux nous présenter cette association brièvement. C'est peut-être pas le...
Oui, c'est une association que nous avons créée en 2014 pour justement créer une plateforme de promotion pour ces films-là qui essaient de venir en France sur les écrans. Ou bien on trouvait qu'il y avait des films juste super, mais qui n'étaient pas du tout connus. Et bon, Visegrad, ensuite le groupe s'est fait connaître en Europe pour une attitude de refuser de coopérer avec l'Union européenne sur des réfugiés, etc. Mais il faut dire que Visegrad, c'est surtout quatre pays, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et la Pologne, où il y a plusieurs dizaines de millions d'habitants européens qui sont aussi pro-européens, qui sont aussi talentueux. Il y a des réalisateurs, il y a des évolutions dans les sociétés, les gens qui aspirent à la démocratie. Ce n'est plus un bloc de l'Est, ce n'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe centrale qui est aujourd'hui dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Et ce que nous avons essayé, c'est de promouvoir le dialogue entre cette partie de l'Europe et la France, pour qu'on se découvre mieux, on se connaisse mieux, pour qu'on se comprend mieux.
Eh bien oui. Alors concrètement, vous accompagnez la sortie de films, je me souviens de... Alors là, c'est l'Europe de l'Est, c'est... Je me souviens de la sortie de l'excellent 107 Women,
oui,
que vous aviez accompagné, super, un film ukrainien, là.
Mothers. C'était 107 mères, un film tourné dans une prison à Odessa.
À Odessa.
Mais nous avons accompagné encore un autre film franco-ukrainien, Lou Bureau, réalisateur-reporter qui a filmé dans les tranchées de Donbass la vie des Ukrainiens sur le front de la guerre.
Ouais, c'est le film Tranché.
Tranché.
Ouais. Et alors, avez-vous accompagné le film L'oiseau bariolé?
Oui.
Oh là là, mais c'est un chef-d'œuvre ce film.
C'est un chef-d'œuvre.
C'est incroyable.
C'est un film de Václav Marhol qui est sorti en France uniquement en Blu-ray.
Ah, en Blu-ray, d'accord. En VOD, hein. Moi, je l'ai vu en VOD sur la plateforme Filmo.
Oui, et en Blu-ray, qui a gagné pas mal de prix, qui était aussi à Venise. Hein.
La Mostra, oui.
La Mostra de Venise. Et qui est un film, un peu une épopée.
Une fresque, oui.
Une fresque en noir et blanc sur... Sur le voyage d'un petit garçon sur une terre de guerre, qui était fait encore avant la guerre en Ukraine, qui était tourné en Ukraine, et qui aujourd'hui vraiment rappelle toutes les images que nous avons, qui nous viennent de là-bas. Et ce film a été remarqué également par la directrice déléguée générale du Festival de La Rochelle, Sophie Mirouz, qui l'a invité au festival à La Rochelle cette année. Donc moi, j'ai eu la grande chance d'accompagner Václav Marhol et l'actrice principale Jitka Čvančarová à La Rochelle. On a fait une projection débat là-bas. Yeah. Et donc, du coup, je dois aussi mentionner que Sophie Mirouz est la marraine de cette édition du festival tchèque et slovaque. Et donc, que c'était un grand plaisir de pouvoir... justement, ouvrir ce trésor d'émotions et d'images pour les spectateurs à La Rochelle, pour qu'ils puissent faire ce voyage dans le pays en guerre à travers le film de L'oiseau bariolé, qui était tiré, enfin, qui était fait d'après un roman d'origine polonaise, éponyme.
Ah oui, d'accord. Et donc, je redis, alors sur la plateforme, il a un titre anglais de Colored Bird, je crois. Sur la plateforme Filmo, vraiment, je vous encourage à aller le voir, c'est magnifique. C'est vraiment un grand film qui n'est pas sorti en salle, encore une fois. Bon, voilà, on en a parlé.
Qui ne va sûrement pas sortir en France.
C'est incroyable, ça c'est carrément incroyable. Bon, bref. Revenons aux courts-métrages polonais. Est-ce que ce sont des courts-métrages historiques ou des films plus récents?
C'est vraiment le jeune, cinéma polonais. Il y a des réalisateurs très jeunes qui viennent de sortir de l'école de cinéma. Il y aura donc le programme va être présenté par Piotr Czerkawski, programmateur de Nowe Horizonty, et de la cinéaste Katarzyna Wersecha. Il y aura un débat animé par Mathieu Leric, mon collègue de Kino Visegrad, professeur à la Sorbonne, autour de ces courts-métrages qui aussi touche un peu les sujets d'actualité en Pologne.
J'avais une question, est-ce que les films entre les pays, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, est-ce qu'ils circulent plus? Est-ce que par exemple en Pologne on voit les films tchèques?
Oui.
Plus que chez nous.
Oui, oui.
Ouais.
Et je pense que les Polonais, ils adorent les films tchèques. Hein.
Ouais.
Parfois, il y a aussi des acteurs qui jouent, des acteurs polonais qui jouent dans des films slovaques. C'est le cas, par exemple, dans des films qui va être projeté samedi prochain, qui s'appelle Symphonie Plastique. Ouais. Il y a Bartosz Bielenie, un très, très bon acteur polonais qui joue dans un film slovaque. Mmh. Donc, il y a des acteurs qui circulent, des films qui circulent, des festivals qui s'invitent. Oui, c'est l'ouverture de ces marchés est naturellement plus propice à cette circulation, plus que dans le sens entre la France et la Tchéquie, par exemple. Oui.
Ouais, ouais. Bah, je vous propose d'écouter un morceau de musique. Je vais le présenter. Alors, vous les avez loupées. Elles étaient vendredi dernier au Centre Tchèque. Vous les avez loupées, moi je les ai loupées parce que je travaillais, mais j'ai oublié également de vous annoncer le concert. Bon, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, mais c'est pourtant un groupe légendaire maintenant, hein, Zubinetti, qui a la particularité d'être composé de 5 femmes et d'un homme, hein, c'est pas très fréquent. Zubinetti, alors peut-être certains d'entre vous connaissent la saxophoniste dont je ne me rappelle plus du tout le nom. Elle fut la saxophoniste du groupe Ujme Doma dans les années 90. En 93, elle participait par exemple à l'album Hollywood. Je vous propose d'écouter Zubinetti, le morceau s'intitule « Ven Patsa ».
Kde si za víčky, zahoří svíčky, nevím jestli je noc a nebo jestli den. Zdáli z rozhlasu jako sen, slyším změň hlasu, mluví španělsky a volají na mě, ať už jdu. Honem rychle ven, honem rychle, rychle, utíkejte se.
Voilà, c'était Zubinetti, on en parlait hors antenne avec Marketa Odowuszkova. Oui, tu connais bien ce groupe-là, elles sont connues.
Oui, oui, oui. Ouais, oui, cool. Oui. Ça veut dire les dents et les ongles.
Ah,
Zubinetti.
Ouais. Nerti. Alors, revenons...
Ça accroche bien.
Revenons à la programmation du festival Check-in. Nous en sommes au film Les limites de l'amour de Thomas Vinsky. Il s'agit du premier film de ce réalisateur, mais qui ne semble pas être un nouveau dans le cinéma. J'ai lu qu'il était question d'expériences cinématographiques radicales. Alors, ça nous intéresse ici. De quoi s'agit-il ? Qu'a-t-il fait avant ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait avant.
Ah,
je ne sais pas exactement ce qu'il a fait avant. Je sais que... en fait, il a étudié à l'école de Famu.
Oui.
Bon, c'est effectivement son premier film.
Ah oui.
Qui était tourné avec la production tchèque, avec des acteurs tchèques, qui est coécrit avec l'actrice principale. Et je pense que le film est radical,
ouais,
dans le sens où il va explorer les fonds d'une relation d'un couple qui est en train de s'ouvrir et qui devient un couple libre,
ah, oui.
ouvert.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, c'est là où il va chercher où sont les limites d'une relation, où sont les limites, les frontières d'une relation de couple.
D'accord.
Et voilà, donc il présente des aspects de ce que aujourd'hui, je pense, est un phénomène assez commun, enfin qui a, je sais pas, peut-être en France on en parle un peu moins, mais en République tchèque on voit pas mal de célébrités qui vivent dans des unions libres, et donc c'est de plus en plus présent dans,
ah,
voilà, donc les gens officiellement ils se déclarent vivre à plusieurs dans une relation amoureuse.
Ah, d'accord.
Et donc cette radicalité qu'il va mettre à caméra à l'intérieur d'une cellule comme ça.
Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la comédienne Anna Wagnerova qui sera présente samedi, demain donc, à voilà. 20h15 pour la projection du film. Elle est connue, elle, un petit peu ?
C'est une actrice qui est très connue, ouais. En Tchéquie. Elle joue dans pas mal de films, de séries télé. Elle a aussi joué, je crois, peut-être dans des séries étrangères tournées en République tchèque. Mais je ne savais pas qu'elle était aussi scénariste. Là, c'est peut-être une des premières fois qu'elle se saisit de ce rôle-là. Et donc, elle a fait des études des arts de théâtre et de musique. Mmh. Et elle a aussi joué dans un film que j'ai montré il y a quelques années sur Milada Horáková, sur une femme politique tchèque qui était tuée par le régime communiste pour ses opinions.
Oui, je m'en souviens.
Et donc...
Et ben alors, du reste, elle sera également dimanche le 15, donc à 18h, puisqu'elle fait partie également de la distribution du film Perdu au paradis. De Fiona Ziegler.
Voilà, c'est vraiment une coïncidence. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ça arrive parfois que les acteurs jouent dans plusieurs films que je programme. Enfin, c'est deux films. Donc, on en a profité, on l'a invitée pour deux jours. Et puis, elle va présenter ce film de Tomáš Vinský, mmh. comme co-réalisatrice et co-scénariste et actrice. Et elle restera pour le lendemain pour son film avec Fiona Ziegler.
Qui est une réalisatrice suisse, alors là, pour le coup.
Qui est une réalisatrice suisse qui est venue au festival Check-In il y a quelques années, quand j'ai invité une délégation de l'école de cinéma FAMU, des jeunes réalisateurs, étudiants, qui ont fait aussi une rencontre à la FEMIS avec d'autres jeunes réalisateurs à Paris. Et elle avait une passion pour la nouvelle vague tchécoslovaque, pour Jan Němec et Věra Chytilová. Et donc, elle a déjà fait un court-métrage sur Jan Němec, inspiré par lui, que nous avons projeté et qui est aujourd'hui sur la plateforme Kino Vyšegrad, chez Universiné. Et donc, comme elle a fait... En fait, elle a d'abord appris le tchèque pour pouvoir étudier à la FAMU. Parce que FAMU a un département international dans lequel c'est enseigné en anglais. Mais elle voulait être avec les Tchèques dans le cursus classique.
Mmh.
Donc, ça nous a vraiment impressionnés. Et donc, Fiona aussi, dans son film, parle de ce que c'est vivre entre deux mondes. C'est la première coproduction helvético-tchèque.
Ouais.
Elle est interprétée pour la plupart en tchèque, mais il y a aussi des parties en français suisse.
Mmh.
Et elle aborde cette question, qu'est-ce que c'est de vivre entre des pays qui peuvent être assez similaires, mais au fond sont différents, la Tchéquie et la Suisse. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir l'inviter.
C'est assez autobiographique, j'ai l'impression, parce que c'est son cas également, elle est entre deux pays. Ouais.
Ouais, je crois que alter ego c'est un homme, mais voilà.
Alors oui, moi j'ai lu sur votre site qu'elle avait appris le tchèque en 8 mois, ça me rend dingue, moi ça fait 25 ans que j'essaie d'apprendre le tchèque et que je ne comprends toujours rien quand je vais là-bas. c'est également un premier long métrage, hein, c'est oui. Fiona Ziegler. Alors est-ce que tu fais attention à ça, à soutenir des premiers films dans ta programmation, est-ce que c'est important?
Ce n'est pas une politique systématique, mais je dois dire que ça nous arrive très souvent. Et tous les ans, on a un premier film. Et puis après, c'est un deuxième film de la personne. Ouais. Là, c'est son premier film, mais on a des films, enfin, on a des réalisateurs dont les premiers films nous avons aussi montré il y a quelques années. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution des talents.
Ah ben, bien sûr. Alors on va parler de Slovo de Beata Parkanova, mais avant on va écouter de la musique, et là pour le coup ce sera lié au film puisque la musique est composée par Jan Muchov. Alors tu me disais qu'il est assez connu.
Il est très connu en Tchéquie parce que bon, c'est un peu une personnalité.
D'accord,
ouais. de sa jeunesse, hein, parce qu'elle a créé un groupe... Alors, je pense que c'était dans les années 90,
ouais.
Qui était très, très à la mode dans une certaine, parmi certaines jeunes personnes,
ouais.
Et qui s'appelait Extase de Sainte-Thérèse,
ouais.
Extase Svate Thérèse. Et je crois qu'ils ont été aussi distribués par MTV, où ils ont fait vraiment aussi une petite carrière à l'international. Ouais.
Alors, Jan Muchov est compositeur de musique de film. Il en a fait une quarantaine, je crois avoir lu. Il a reçu 4 Lions tchèques, hein, pour la musique de film. Et il a été à l'initiative de groupes tels que Color Factory, alors là c'est de la pop un peu sucrée, Twin Freaks, The Ecstasy of Saint Teresa, ou plus récemment Uma Kart. The Ecstasy of Saint Teresa qu'on va écouter, ils ont fait un premier album très rock, très punk rock. Et suite au départ de plusieurs musiciens, il s'est devenu un duo avec la chanteuse Katerina Vinterova. Et ils se sont tournés vers de l'électro alternative. Je vous propose d'écouter un morceau de ce groupe, The Ecstasy of Saint Teresa.
If I had... Two boys. If I had two boys.
Voilà, c'était The Ecstasy of Saint Teresa, avec Jan Muchov, le compositeur de la musique du film Slovo de Beata Parkanova. Slovo, ça veut dire les mots, si je me souviens bien, les paroles. Peux-tu nous expliquer le titre de ce film ? De quoi s'agit-il ?
Le mot Slovo, ça veut dire aussi le mot ou la parole.
Ouais.
Et dans ce film, le contexte concerne la parole donnée, la parole donnée qui compte et qui a une grande valeur entre les personnes qui ont conclu un accord.
La parole, dirait-on, quand
voilà.
Tu donnes la parole.
Ouais, voilà, d'accord. C'est ouais. Dans ce sens-là ouais, que ouais. Ça... Ce titre joue après le contexte de film. C'est le seul film de fiction qui se déroule après l'invasion soviétique en 68.
Ah oui.
Parkanova nous ramène dans cette période-là avec aussi son regard d'une personne qui est née évidemment après. Elle n'a pas connu le communisme, mais elle va explorer une cellule familiale, voir comment les uns et les autres dans la famille large, comment ils ont vécu et comment ils ont réagi à cette nouvelle société qui est devenue... En fait, complètement totalitaire et quelles étaient les répercussions de ce printemps de Prague tué par les chars soviétiques et aussi de rôle de la parole parmi les personnes. Qu'est-ce que ça pouvait avoir là, comme valeur de se tenir à ça.
Ouais. Le film se situe en 1968, donc...
Oui, un peu après.
Ouais. Et un peu après, donc on peut rappeler, peut-être, c'est l'invasion... Il y a une libéralisation de la société tchèque...
Un dégel, oui,
avec Dubček, je crois. C'est
avec
ça
Dubček, oui.
Qui est terminé jardinier, je crois.
Et qui a proposé le socialisme au visage humain.
Voilà.
Mais c'était aussi véhiculé par les intellectuels, les ouais. écrivains, les cinéastes qui voulaient ouvrir la société
ouais.
et qui ont donc créé le mouvement autour de Printemps de Prague, le dégel.
Ouais.
Et ça n'a pas plu aux soviétiques
ah ben non.
parce que tout ce qui est dans leur zone d'intérêt, dès qu'il y a la démocratie et la liberté qui s'installent, ça les menace. Parce que leur propre peuple pourrait s'en inspirer.
Ouais.
Et donc à l'époque, la Tchécoslovaquie était encore le pays satellite de cette union soviétique. On était en quelque sorte une colonie, pour ainsi dire. Et donc les Soviétiques ont décidé à Moscou que les Tchèques n'ont pas droit d'être libres, ils ont envoyé des chars pour stopper.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 68. Et après, c'était la normalisation, c'est ça ?
Normalisation, et le film se déroule dans la plupart, dans ça.
Dans ce contexte-là, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette réalisatrice ? Est-ce que tu la connais ?
Une très jeune réalisatrice, talentueuse, qui est déjà venue avec son premier film, Les Momos, Kvilke. Elle s'est rapidement installée au sommet de cinéma tchèque parce qu'avec tout son premier film, elle a raflé des lions tchèques, l'équivalent des Césars, pour meilleure actrice, meilleure réalisatrice. Tout ça, elle s'entoure aussi par des musiciens, comme tu as vu, de choix. Et donc, personne n'a au début cru à son scénario, son projet. C'est vrai qu'elle a un style un peu minimaliste et saisissant. Donc, elle a aussi fait un casting avec des acteurs exceptionnels qui, à l'époque, n'étaient pas connus et les a fait jouer. Ils ont vraiment très bien performé. Donc, le premier film, c'était un grand succès. Avec son deuxième film, elle a gagné plusieurs prix aussi au Festival international de Karlovy Vary, notamment pour la mise en scène. Donc, ça nous a fait plaisir qu'elle continue, puis elle revient. Et je crois qu'elle a déjà tourné un autre film, un troisième film entre-temps, dans lequel elle a fait jouer aussi, je crois, un Français. Donc, c'est quelqu'un qui crée beaucoup. Peut-être qui sera là avec nous pour parler de films.
Elle sera là donc à la projection du 20 octobre à 20h, toujours au cinéma Saint-André-des-Arts, dans le cadre du festival Check-In, dont on parle aujourd'hui dans Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. On va parler du film suivant, Symphonie Plastique de Juraj Lehotsky. Alors, le samedi, ça sera le samedi 21 à 21h, sera diffusé ce film en présence du réalisateur qui en est à son quatrième film, lui. Hein. C'est pas un jeune, c'est pas un nouveau. Et notamment, il a fait un film sur l'amour entre les personnes aveugles. Et est-ce que tu as vu d'autres films de lui ? Est-ce que tu as vu ce film-là, d'ailleurs ? Et est-ce que tu peux nous parler de lui ?
Oui, je les ai tous vus. Et je les ai tous aimés. Et c'est vrai que Les Amours Aveugles étaient un coup de cœur.
Ah oui.
D'ailleurs, Juraj est un des rares réalisateurs de cette région-là qui a été sélectionné à la quinzaine de réalisateurs avec ce film-là.
Ah d'accord.
Et ce film-là était distribué en France.
Tiens donc.
Il était acheté après le prix qu'il a eu à Cannes, parce qu'il a eu aussi le prix de cinéma RSC, SICAE. Et il était acheté par un distributeur français qui l'a ensuite aussi sorti en DVD. Et nous l'avons montré dans le cadre d'une projection Kino Visegrad. C'est vraiment un film très touchant. Je pense qu'il ne perd pas d'actualité. Ouais. C'est un genre de film que tu peux voir aujourd'hui. Il est aussi actuel qu'il y a 10 ans. Enfin,
alors, je me suis demandé si c'est une fiction ou...
Non.
Ah non,
Non, c'est un documentaire.
C'est un documentaire,
un documentaire, mais bon, un peu à la limite entre la fiction.
Ouais, d'accord,
Et il y a plusieurs couples qui sont suivis. Et donc, il s'agit des personnes malvoyantes.
Ouais.
C'est très, très touchant.
Alors,
c'est très beau.
Je crois qu'on peut le voir sur une plateforme, je ne sais plus laquelle, mais... Ah, il me semble.
C'est sûr. Après, moi, je n'ai pas vraiment l'information, mais,
J'ai failli voir,
j'aimerais bien le reprogrammer à un moment.
Ah oui.
Et ces autres films, c'est tous des films sur des individus, sur des personnes un peu différentes, un peu décalées par rapport au mainstream. C'est aussi le cas pour le film de samedi prochain.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il s'agit souvent des destins pas faciles.
Ouais.
Voilà, c'est toujours des héros de ces films doivent affronter toujours des épreuves pas faciles. C'est parfois même dur.
Ouais.
Et puis les films, ils sont sortis. Enfin, le dernier film est sorti, je crois qu'il était pas loin de la pandémie. Donc, on n'a pas pu le montrer au festival. Donc, c'est celui avant la symphonie plastique.
Alors, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur la symphonie plastique. De quoi s'agit-il ?
Alors, voilà, c'est encore un film qui est autour de la musique. Tous les ans, je programme des films.
Ah oui, c'est ce que je me disais.
Sont,
oui. Ça fait trois ans.
Tu parles de la musique.
Ça fait trois ans que tu viens. Ça fait trois ans qu'il y a un film ou plusieurs même là. En l'occurrence,
c'est
plusieurs.
C'est toujours comme ça. L'année dernière, c'est curieux. On a montré un film qui s'appelait Symphonie bizarre, qui était plus sur la musique rock. Ça c'est complètement par hasard et je crois que dans le cas de Juraj, il vient d'une famille de musiciens, son père est un grand compositeur musicien slovaque, mais je crois que en fait la musique fait tellement partie de raison d'être, d'existence, de culture, de quotidien des gens d'Europe centrale, que tout simplement, naturellement, il y a des films qui sont qui parlent de la musique, et moi, tout naturellement, je les ai dans les choix pour les sélectionner. Et donc, ce film nous accompagne dans un milieu de musique classique, entre Bratislava et Vienne, de la musique classique, la musique de chambre, avec une histoire comme ça très finement racontée de deux frères, dont un est un enfant adoptif. Et Juraj a une finesse, un regard, une manière de montrer qui est très fine et très subtile. Et c'est ça ce que j'adore, et ça va, c'est vraiment raconté avec la musique. Je vais pas dire non plus plus en détail l'histoire, mais il a un regard très fin, et je pense que c'est un grand réalisateur, et que c'est dommage que encore une fois le film n'est pas distribué, mais Juraj sera avec nous. Ce film, il pourra aussi donc répondre à la question. Ce film fait partie d'un partenariat qu'on a depuis quelques années avec l'Observatoire de la diversité culturelle, qui tourne le débat après le film et qui en fait un reportage. Et ensuite, on le met sur notre chaîne YouTube, Check In Film Festival. Et donc ainsi, le débat reste. Voilà, mémorisé et consultable.
Eh ben super. Donc c'est le 21, samedi 21 à 20h, Symphonie Plastique. Et on va rester dans la musique avec le film suivant, qui est, je crois, le dernier film de la programmation de Check-In cette année, qui est Capre Code. Mais puisque dans Capre Code, il s'agit du compositeur Jan Capre, la moindre des choses, ce serait d'écouter avant d'en parler ce que fait Jan Capre, ce qu'il a composé. Je vous propose d'écouter le début de la symphonie numéro 7, Krajina Dietzvi. Ça veut dire il y a une question d'enfant là-dedans, Dietzvi.
Le paysage de l'enfance.
Ah voilà, merci beaucoup. On écoute le début de cette symphonie numéro 7 de Jan Capre.
Thank you. Thank you.